Bonjour à tous et à toutes. Vous aurez remarqué, ce matin, les enfants ne sont pas sortis. Mais parce qu'en fait, ils n'étaient pas rentrés. Ils ont commencé directement à 10h30 avec Adrien et Ghislaine. Et on travaillait sur les chants qu'ils vont proposer, présenter tout bientôt, hein, à Noël. Donc on est reconnaissant, hein, pour tout ce temps qu'Adrien et Ghislaine leur consacre aussi une fois par mois environ, ou toutes cinq semaines environ. Et puis reconnaissant également pour les personnes qui, en ce moment même aussi, entourent, enseignent nos enfants. On peut penser à Émilie, au Mazet avec les préados, à Carla et Annette qui sont dans la salle du fond pour l'école du dimanche, les Colettes. Et puis on peut penser aussi à Eleanor et Sylvie, qui sont à la garderie, donc là depuis le début du culte. Reconnaissant, voilà, pour toutes ces personnes, c'est précieux. Et nous voulons continuer aujourd'hui notre parcours dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, j'ai fait une première prédication sur ce livre, mais ça commence à remonter un peu, hein. C'était il y a maintenant 8 semaines. Il y a eu différents cultes entre les deux, mais je commence du coup par quelques rappels, deux rappels, pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Un premier rappel concernant la structure du livre. Parce que l'Ecclésiaste présente son discours avec beaucoup de soin, il y a toute une structure, il y a un cadre. Et donc on a dans ce livre une introduction au tout début à laquelle répond une conclusion à la fin. La présentation d'une thèse de l'Ecclésiaste, la thèse principale ou l'une des thèses principales de son livre, qui est rappelée également à la fin du livre. On a un prologue que nous avions vu déjà la fois précédente, il y a 8 semaines du coup, auquel répond tout à la fin du livre un postlogue. Et entre les deux, nous avons le discours en lui-même, qui est le corps de tout son message. Ça fonctionne moyen ce matin, si c'est bon. Voilà. Le corps du discours, avec en gros les chapitres 1 à 6, où l'Ecclésiaste décrit la réalité de la vie telle qu'elle est. Et ensuite, dans les chapitres 7 à 11, il va donner des conseils de sagesse pour vivre cette réalité, pour vivre la réalité de la vie. Ça, c'est un premier rappel. Un deuxième rappel au sujet de la thèse principale de son livre, que l'on trouve au chapitre 1, verset 2. « Tout est vanité, absolument vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité au plus haut point. » On se dit, waouh, ça commence bien mal. Et c'est vrai, on se souvient, l'Ecclésiaste est quelqu'un qui prend le temps de regarder, d'examiner, de réfléchir en fonction, enfin, à la lumière du monde qui l'entoure, et il en arrive à la conclusion que tout ce que l'être humain pourrait faire pour échapper ou tenter d'échapper à cette condition humaine, c'est vain, c'est dérisoire, c'est futile, c'est éphémère. Échapper à la condition humaine, c'est-à-dire échapper à la condition dans laquelle l'être humain se trouve depuis l'entrée du péché dans le monde en Genèse chapitre 3. C'est l'une des thèses principales de son livre. Mais comme nous avions commencé à le voir aussi il y a 8 semaines, l'Ecclésiaste veut aussi, avec une autre thèse qui se juxtapose, nous amener tout au long du livre à apprendre à vivre la vie telle qu'elle se présente à nous, avec son lot de difficultés, d'insatisfactions, de frustrations, et on pourrait mettre bien des noms et qualificatifs à cela. Il n'y a donc pas uniquement le constat que la condition humaine est dérisoire, mais il y a aussi cette invitation à prendre conscience que la vie, elle vaut le coup, elle vaut la peine d'être vécue, même avec ses difficultés. L'Ecclésiaste nous invite à recevoir et à jouir de tous ces plaisirs, petits plaisirs que la vie nous offre et qui sont en fait des dons de Dieu, des dons que Dieu nous fait dans sa grâce. Et donc ce livre de l'Ecclésiaste est jalonné tantôt par ce refrain que tout est vanité, tout est dérisoire, ou poursuite du vent, etc. Et puis aussi tantôt par ce refrain sur le bonheur que l'on trouve en Dieu. Mais pour en arriver là, l'Ecclésiaste, et là aujourd'hui on aborde la première grande partie du livre, la première grande partie du corps du discours, l'Ecclésiaste veut quand même pousser la réflexion. Il décrit la réalité du monde telle qu'elle est, mais quand même, à défaut d'échapper à la condition humaine, est-ce qu'on peut au moins tenter de l'améliorer, de la changer, de la rendre plus confortable, meilleure? Alors l'Ecclésiaste présente à partir du chapitre 1, verset 12, et jusqu'à la fin du chapitre 2, différentes tentatives qu'il a faites pour essayer de transformer cette condition humaine. Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui avec une première tentative, et pour cela nous lisons dans l'Ecclésiaste, au chapitre 1, les versets 12 à 18, et je vous affiche ici le texte biblique que nous allons lire. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem, et je me suis appliqué à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu a appliquée aux êtres humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est dérisoire et poursuite du vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse, plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissance. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et la connaissance de la folie et la stupidité, et je me suis aperçu que, là aussi, c'est poursuite du vent. Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Dans les groupes de quartier, nous étudions la parole de Dieu et nous utilisons ce petit livre « Creuser l'Écriture ». Creuser l'Écriture, une sorte de boîte à outils pour nous aider à déterminer le sens d'un passage biblique. Et parmi tous les outils qui nous sont proposés, il y a celui de la répétition de mots. Et on repère ici dans notre texte qu'il y a des mots, des notions qui sont répétées plusieurs fois. Par exemple, Jérusalem, au verset 12, au verset 16. Ou bien cette expression « je me suis appliqué à ». Ou plus littéralement, peut-être si vous avez une Bible assez littérale, « j'ai appliqué mon cœur ». Et si on veut être très littéral, « j'ai donné à mon cœur de ». Ou encore l'expression « poursuite du vent ». Et puis d'autres répétitions ici que je n'ai pas mises parce que ça aurait surchargé en couleurs et on n'aurait plus rien vu du tout. Ces répétitions permettent de mettre en évidence une structure à notre passage. Et là encore, la structure... Petite publicité hein, pour les groupes de quartier. La structure, il reste encore un exemplaire si jamais vous n'en avez pas encore. Et puis au pire, on peut en recommander. Mais en tout cas, une structure à notre passage, ça pourrait être celle-ci. C'est le même texte, hein, avec des couleurs et puis des correspondances. En orange, l'Ecclésiaste évoque celui qui a été roi à Jérusalem. En vert, l'Ecclésiaste présente l'objet de son étude. Il s'est appliqué à rechercher, explorer, connaître, etc. En rouge, l'Ecclésiaste nous présente le fruit de son étude. Ce n'est que poursuite du vent. Et il utilise aussi le terme dérisoire qui est dans la thèse du chapitre 1, verset 2. En bleu, l'Ecclésiaste explique la raison de l'échec de sa tentative. À trouver le bonheur par la sagesse, par la connaissance, par le savoir. Et le fait qu'il y ait ici ces répétitions, ce bloc des versets 12 à 15, et puis ensuite ces blocs où on retrouve le même schéma dans les versets 15 à 18, c'est comme pour entériner le constat de l'échec. Moi, l'Ecclésiaste, je me suis appliqué à chercher, à explorer, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu savoir. Point de suspension. Eh bien, à chaque fois, systématiquement, j'en suis arrivé à la même conclusion. C'est poursuite du vent. C'est dérisoire. Parcourons le texte biblique. Et dans un deuxième temps, qui nous occupera plus de temps d'ailleurs, nous reviendrons sur, nous ferons quelques prolongements au moyen de questions qu'on peut se poser sur ce texte. Mais déjà, parcourons ce texte, et pour donner plus de poids à ses appréciations, à son examen de la vie, l'Ecclésiaste rappelle le souvenir de celui qui est le plus sage, le sage des sages de son temps, le plus instruit des hommes, et ça fait bien sûr penser à un certain Salomon. Le verset 12, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. » Et il fait également référence à cela dans le verset 16. L'Ecclésiaste veut montrer que même dans les circonstances les plus favorables, autrement dit celles d'un homme tel que Salomon, à qui quand même bien des choses ont souri dans la vie, et dont on connaît sa sagesse, eh bien même là, on ne peut pas obtenir le bonheur par la sagesse. Début du verset 13, « Je me suis appliqué à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. » Cette expression « tout ce qui se fait sous le ciel », tout comme « tout ce qui se fait sous le soleil » dans le verset 14, ce sont en fait deux expressions synonymes pour décrire la vie sur la terre avec les limites que nous connaissons et l'être humain, précision qu'il croit en Dieu ou non, l'être humain habite et peine sous le ciel, sous le soleil. La vie sous le ciel, c'est la vie telle qu'on la connaît depuis l'entrée du péché dans le monde. C'est une vie pénible, complexe, éphémère pour tous les êtres humains. La traduction de la Bible Nouvelle Français Courant, qui est sortie en 2019, traduit ici la vie dans ce monde. L'ancienne Français Courant traduit la vie ici-bas, c'est ça, c'est la vie maintenant, la vie sous le soleil. L'Ecclésiaste a poussé loin donc toutes ses investigations pour comprendre, pour observer, pour recueillir des informations, et il dit « c'est une occupation pénible que Dieu a appliquée aux êtres humains ». Et la traduction qui est proposée ici, qui n'est pas une traduction forcément que vous avez dans votre Bible, mais qui aide à faire ressortir qu'en fait c'est le même verbe qui est utilisé quand il est dit « Dieu a appliqué » et puis « je me suis appliqué » au début du verset 13 et également au début du verset 17. Parce que finalement, si l'Ecclésiaste s'est appliqué à cette tâche, c'est parce que derrière, c'est Dieu qui lui a appliqué cette occupation. Et on reviendra un peu plus tard sur cela, sur la personne de Dieu. Et cette occupation ici, elle est décrite comme étant pénible. Pourquoi l'exercice de la sagesse? Pourquoi la recherche? Pourquoi l'investigation? Pourquoi est-ce une occupation pénible? C'est la conclusion d'ailleurs à laquelle arrive l'Ecclésiaste dans le verset suivant, dans la partie en rouge. Tout est dérisoire et poursuite du vent. La sagesse amène au constat de la futilité de tout ce qui se fait sous le soleil. Et ça génère des frustrations, des déceptions. C'est pénible, ça rend la vie compliquée. L'explication qu'il en donne au verset 15, « Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut pas être compté. » Et il y en a des manques. Et il y en a des choses qui sont tordues et qui ne peuvent pas être redressées. Alors, l'Ecclésiaste, reprenant les traits d'un certain Salomon, dans le verset 16 que je ne relis pas, il continue son investigation au verset 17. « Je me suis appliqué à connaître la sagesse et la connaissance de la folie et de la stupidité. » L'Ecclésiaste s'est efforcé de connaître la sagesse, mais aussi de connaître la connaissance de la folie et de la stupidité. Connaître la connaissance de la folie et de la stupidité dans le sens de discerner la folie, la stupidité, pour bien poser les différences entre la sagesse, qui est l'objet de son étude, la sagesse, la connaissance, la science, distinguer cela, différencier cela de la folie, de la stupidité, dont il parlera dans le début du chapitre 2, c'est-à-dire la tentative qu'il fera juste après et dont nous parlerons dans 2 semaines. Son objectif, c'est de s'attacher à la sagesse et de tout mettre en œuvre pour tenter de s'affranchir de la condition humaine par le moyen de la sagesse. Mais là encore, il en arrive à la conclusion que c'est poursuite du vent. Et il en donne l'explication dans le verset 18. « Plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. » Quel prolongement on peut faire à partir de ce texte ? Et on va se poser quatre questions ce matin. Première question, les livres de l'Ecclésiaste et des Proverbes, est-ce qu'ils se contredisent ? Comment concilier tout ce qu'on est en train de dire ici avec ce que le livre des Proverbes dit dès le départ ? C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Proverbe 1, verset 7. On a l'impression que ça se contredit. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, non. Il y a une parfaite corrélation. Les proverbes indiquent comment il nous faut agir dans ce monde. Et il nous faut agir en usant de sagesse. L'Ecclésiaste, dans le texte que nous méditons aujourd'hui, il dresse ce constat que la sagesse ne suffit pas à régler tous les problèmes. Ça ne suffit pas. Cette condition humaine, elle est marquée par le péché et elle aura toujours ce caractère dérisoire, futile, pénible. Mais ne nous méprenons pas. Le livre de l'Ecclésiaste, et on le verra dans la suite, ne cesse de mentionner la sagesse et elle est utile et elle présente même bien des avantages sur la folie, comme je vous donne une référence parmi d'autres au chapitre 2, versets 13 et 14. L'Ecclésiaste parlera aussi de la crainte de Dieu, tout comme dans Proverbe 1, verset 7. Donc si on regarde à l'ensemble du livre de l'Ecclésiaste, Proverbe et Ecclésiaste, évidemment non, ne se contredisent absolument pas. La sagesse n'est donc pas inutile, bien au contraire, elle nous aide pour bien mener notre vie et nous y reviendrons dans le livre. Deuxième question que nous nous posons, le pourquoi cette inutilité de la sagesse pour tenter de transformer, de changer, d'améliorer notre condition humaine ? Pourquoi ça ne permet pas finalement d'apporter des réponses qui sont pérennes ? Et on peut mentionner plusieurs raisons à cela. Une première raison, c'est notre manque de moyens. Sur le plan humain, financier, des compétences, évidemment, ce manque de moyens empêche de mettre en œuvre la solution que l'on a obtenue par la sagesse, par la connaissance, par le savoir, par la science, etc. La sagesse est d'utilité très relative dans la mesure où elle est bien souvent impuissante aussi face au phénomène de la vie et aussi faute de moyens. Verset 17, « Je me suis appliqué à connaître la sagesse et la connaissance de la folie et la stupidité et je me suis aperçu que là aussi, c'est poursuite du vent. » Une deuxième raison qui explique l'inutilité de la sagesse et de la connaissance, c'est que plus notre connaissance augmente, plus nos tourments augmentent aussi. Plus on a connaissance de par l'information de ce qui se passe dans le monde, sous le soleil, sous le ciel, et plus on a connaissance des malheurs qui s'abattent sur la terre et sur les êtres humains. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'était pas quand on n'était pas informé de ce qui se vivait dans le monde, parce qu'il n'y avait pas tous ces moyens de communication comme aujourd'hui. Et là, quand on prend conscience de ce qui se passe ici ou là, avec sagesse, détermination, on se décide à agir, à réagir, on s'implique par le moyen, par exemple, d'une association humanitaire ou par différentes œuvres, etc. Mais dans le fond, que pouvons-nous faire devant des phénomènes qui nous dépassent ? Comme des tremblements de terre, et il y en a tellement. Des famines, des conflits armés. Ce qu'on peut mener n'est tout au plus, comme une expression que j'ai trouvée dans un commentaire, une goutte d'eau dans un océan de misère. C'est dérisoire. Plus on augmente notre connaissance de par l'information qu'on a de ce qui se passe dans le monde, et plus nos tourments augmentent aussi. C'est le verset 18. Une troisième raison qui explique l'inutilité de la sagesse et de la connaissance, et il me semble que c'est peut-être celle-ci qui est parmi les plus importantes des trois qu'on mentionne là, c'est notre manque de volonté pour agir. Bien souvent, par la sagesse, on perçoit des actions qui seront vraiment les bienvenues, qui, si on les mettait en œuvre, apporteraient vraiment un mieux. Mais on manque de volonté pour les mettre en œuvre, ces actions. Un exemple. En décembre 2015, ça fait 8 ans, hein, il y a eu un accord international sur le climat applicable à tous les pays qui a été trouvé lors de la COP21. L'objectif, c'était de fixer comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5 et 2 degrés d'ici à 2100. Alors c'est bien, les experts climatiques ont parlé, on sait ce qu'il faut faire, on a l'objectif, on a plein de moyens pour le mettre en œuvre, mais derrière, il n'y a pas toujours la volonté de faire le nécessaire pour obtenir cela, et donc pour que l'accord puisse être tenu. Parce que ça nécessite, par exemple, des sacrifices énormes. Ou encore, ça nécessite beaucoup de courage de la part des gens qui sont au pouvoir, qui sont dans les organes décisionnels. Ça demande beaucoup de courage pour affronter toutes sortes de choses, comme des mouvements sociaux, ou alors les considérations électorales. Parce que derrière, il y a aussi des histoires de gros sous. Alors on fait des accords, on les signe, mais derrière, on n'est pas prêt forcément à les tenir. Et certainement d'autres choses que l'on ignore encore. À la fin de ce mois de novembre, là, novembre 2023, il y aura la COP28. Il y en a eu 6 entre les deux. Parce qu'on n'a pas résolu le problème. La sagesse et la connaissance, c'est bien. On peut avoir tous les experts qu'on veut, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la volonté derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Et ce que je dis là, au niveau de tous ces grands problèmes structurels de notre monde, ça vaut tout autant quand on le ramène à notre vie à chacun. Au fur et à mesure que nous cheminons dans notre vie chrétienne, nous gagnons petit à petit en maturité, en sagesse, en connaissance, et c'est heureux. Et on sait petit à petit toujours plus ce qu'il convient de faire pour continuer de grandir, de progresser dans notre foi, dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre relation avec lui. Mais est-ce qu'on le fait toujours? Est-ce que nous mettons tout en œuvre pour, par exemple, grandir dans notre intimité avec Dieu, par la lecture de sa parole, par la prière, en dégageant du temps pour cela? On sait ce qu'il convient de faire, mais est-ce que nous le faisons pour autant? Toujours. Et à chacun de s'interroger, de se remettre en question devant le Seigneur. Et en le disant, je me désigne moi le premier. Le livre Creuser l'Écriture, c'est bien. Ça donne des outils, c'est super. Mais est-ce que nous aurons la volonté, la détermination, demain, après-demain, d'utiliser ces outils? On peut avoir la sagesse, on peut avoir la connaissance de ce qu'il convient de faire, mais ce n'est pas pour autant qu'on le fait. Et quand nous ne le faisons pas, c'est bien souvent faute de volonté, de détermination à agir. Une troisième question que l'on peut se poser, bon, ok, d'accord, le tableau est un peu sombre, mais quand même, est-ce que la sagesse n'aide pas un tout petit peu, quand même? Voyons. Alors oui, on peut noter des choses qui sont positives, des résultats positifs obtenus par la sagesse, par la science. Par exemple, on fait des progrès dans la santé. L'espérance de vie augmente. Des progrès techniques avec une amélioration de la qualité de la vie. Des moyens de communication, de transport qui nous facilitent quand même beaucoup notre vie. On a une connaissance du monde. Je parlais tout à l'heure de l'information, mais aussi par la science, On a une connaissance de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et point de suspension, point de suspension, point de suspension. Mais en même temps, tous ces progrès, toutes ces avancées qui ont été réalisées pour nous aider à mieux vivre, ça révèle aussi en nous des fragilités. Par exemple, la médecine fait des progrès. On prend un traitement qui va soulager notre mal, mais ça va détraquer autre chose dans notre corps, parce qu'il y a des effets secondaires. Alors oui, ça guérit d'un côté, mais ça affaiblit de l'autre, surtout pour des maladies lourdes qui durent. Nous avons un autre exemple, tout à notre portée pour gagner du temps, pour nous faciliter la vie, mais paradoxalement, nous avons beaucoup de mal à gérer notre temps. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de mal à gérer notre temps. Pourtant, on a tous les agendas possibles, tout ce qu'il faut, électronique, papier, etc. Et puis en fait, on perd du temps dans beaucoup de futilités. Peut-être dans beaucoup de loisirs. Tiens, on en reparlera dans 2 semaines. Encore un autre exemple. On a longtemps cru qu'avec l'instruction apportée au plus grand nombre, on établirait un monde meilleur. Ah, l'instruction. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Dans un commentaire du livre de l'Ecclésiaste, j'ai trouvé cette référence au film tiré du livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, où l'on voit un instituteur qui fait sa rentrée scolaire dans une école de Marseille et qui tient ce discours. On est le début du mois d'octobre de l'année 1900. Je cite. Mes chers enfants, nous sommes entrés dans un siècle fabuleux où les miracles, ceux nés de la science, seront quotidiens et apporteront de la joie aux plus pauvres, aux plus humbles. Les maisons auront le gaz, la lumière électrique, souvent même le téléphone. Oui, oui, ce téléphone fera que d'ici on pourra parler sans se déranger et sans crier à des personnes qui habitent au bagne ou même Aix-en-Provence. Il parle de Marseille, hein. Lui il est à Marseille. Notre 20e siècle sera un très grand siècle. Le progrès est en marche. Bientôt, la machine exécutera les travaux les plus pénibles. Elle permettra sans doute de réduire à 10 heures la journée de travail et l'ouvrier aura un jour de repos par semaine. Et guidé et sauvé par l'instruction, chacun aura sa place dans un monde qui respectera les hommes. Waouh, fin de citation. Ça donnait envie d'être en 1900 pour dire « on va vivre tout ça hein. ». Alors, 123 ans plus tard, quel bilan dressé? Est-ce que l'instruction a apporté tous les fruits qu'on était en droit d'espérer ou voilà, on espérait attendre? Est-ce que les gens sont plus civilisés, plus respectueux de leur prochain, plus attentifs à leur prochain? On est en droit d'en douter, hein. Et quand on voit tout ce qu'a été le XXe siècle, bon, il y a eu certaines belles choses, mais il n'y a pas eu que des belles choses, hein, à tous les niveaux. Ça a permis des avancées, l'instruction, c'est vrai. Ça aide un peu, ça apporte du mieux. Il y a eu des apports qui ne sont pas négligeables, mais il semble quand même que cette forme de sagesse que sont l'instruction et la transmission de savoir n'a pas apporté la solution à la condition humaine. Encore un autre exemple, et je m'arrêterai là. Il y a bien des progrès qui ont été réalisés dans le domaine des sciences humaines, de la psychologie, à tel point qu'aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une librairie quelconque, vous allez même au centre de Nîmes, hein, vous entrez dans n'importe quelle librairie, vous demandez le rayon psychologie, machin, ah, c'est là, parce qu'il y en a, hein, il y en a toujours maintenant. Le rayon psychologie, sciences humaines. Tout un rayon entier sur le développement personnel, la psychologie, pour le mieux-être, le bien-être, etc. Ça vaut même d'ailleurs pour la littérature chrétienne. Il y a tout un rayon, toute une table, développement personnel, etc. Mais malgré cela, on n'a jamais consommé autant d'antidépresseurs et d'anxiolytiques que de nos jours. Donc on fait des progrès d'un côté, mais finalement ça n'aide pas parce que sinon il n'y aurait plus besoin de toutes ces choses-là. Et je ne mentionne pas les antidépresseurs et anxiolytiques pour condamner aucunement cette pratique, bien au contraire, mais je la mentionne pour nous faire prendre conscience que la sagesse, la science, n'apporte que tout au plus un léger mieux à notre condition humaine, mais sans résoudre le problème de fond. Parce que finalement, en plus de ces trois problèmes que l'on a mentionnés dans la question numéro 2 ici, il y en a un qui est encore plus fondamental et que j'ai exprès gardé jusqu'à maintenant. C'est le péché qui s'entremêle à notre être et qui affecte notre action, notre réflexion et même notre sagesse. Le péché gâche beaucoup de choses. Le péché tord les choses. Ce qui est tordu, je relis le verset 15 de notre texte, ce qui est tordu ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté. Si la sagesse est tenue en échec, c'est justement, bel et bien, à cause de ce péché qui s'attache à tout notre être et qui affecte tout ce que nous sommes, aussi bien d'ailleurs les croyants que les non-croyants. Qu'en est-il, par exemple, de nos relations dans le couple, dans la famille, dans nos relations les uns avec les autres, dans l'Église ? Nous avons évoqué cette semaine, dans le cadre des groupes de quartier, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul s'adressait à des chrétiens, et cette église de Corinthe souffrait de bien des divisions, des clans, de l'orgueil et de différents problèmes liés au péché, finalement. Tous les êtres humains, chrétiens ou non, sont atteints par le péché et ses conséquences. Et ça génère toujours plus des frustrations, des manques, des choses qui ont été tordues et qui ne peuvent pas être redressées. Et je ne dis pas cela en disant, en fait, finalement, il y aura toujours le péché. Je ne suis pas en train de dire ça pour qu'on se satisfasse de ce statu quo. Bien au contraire. Il suffit d'ailleurs de lire la suite du livre de l'Ecclésiaste pour s'en convaincre. Et pas que l'Ecclésiaste, mais la parole de Dieu dans son ensemble. On prend conscience de l'importance de lutter contre le péché, de ne pas laisser le péché agir en nous. Il y a cette lutte contre le péché qui doit être menée parce que cette lutte, elle laisse place à de réels et profonds changements à la gloire de Dieu. Je pose une dernière question ce matin. Quelle espérance nous reste-t-il ? Devant ce constat, quelle espérance nous avons. On le mentionnait tout à l'heure dans ce texte, dans le verset 13 que nous avons lu, c'est une occupation pénible que Dieu a appliquée aux êtres humains. Dieu n'est pas absent dans notre texte. C'est la première fois d'ailleurs que l'Ecclésiaste mentionne Dieu dans son livre, mais il le mentionnera bien des fois encore. Il n'y a pas de doute pour l'Ecclésiaste, Dieu est là. Dieu existe. Non seulement il existe, mais Dieu est aussi à l'œuvre sous le soleil parmi nous. Dieu n'a pas créé le monde une fois, comme ça, et puis après il est parti en vacances. Il agit encore. Et même depuis l'entrée du péché, Dieu agit. Dieu préserve. Et je pense qu'on a toute raison de penser que s'il a enlevé sa main, ce serait pire encore. Vous imaginez, hein ? Au sein de notre existence humaine, qui contient son lot de frustrations, d'épreuves, de déceptions, nous pouvons compter sur Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette activité, qui nous applique cette activité, comme on l'a vu dans ce verset 13. C'est lui qui nous la donne. Et puisque c'est lui qui nous la donne, c'est qu'il n'y a pas un hasard. Si les choses sont comme cela aujourd'hui, Dieu s'en sert, mais ce n'est pas un hasard. Je cite encore un commentaire. Un commentateur écrit « Si notre existence en ce monde a pris une tournure aussi tragique, il est évident qu'il y a pour cela des raisons et que cela a un sens. La suite du discours de l'Ecclésiaste permet de discerner une raison pour laquelle Dieu confie aux humains une telle activité, celle dont il est mention au verset 13. C'est pour mettre un frein à leur désir de toute puissance. C'est pour qu'ils prennent conscience de leurs limites, de leur impuissance, et qu'ils apprennent à le craindre. Et cela aussi est bon pour nous. Dans son livre, l'Ecclésiaste veut nous inviter à tourner notre regard vers Dieu avec confiance, à placer notre foi en lui, parce que Dieu est là, même s'il y a un caractère décevant à la sagesse et à la connaissance. La foi en Dieu nous aide à être réalistes et lucides, comme l'Ecclésiaste, hein, sur le monde qui nous entoure, parce que nous connaissons la réalité du péché. Nous voyons aussi les conséquences de ce péché dans la vie sous le soleil. Mais en même temps, la foi que nous avons à Dieu nous aide à prendre conscience qu'il y a un avenir plein d'espérance. C'était aussi l'espérance de l'Ecclésiaste, et c'est la nôtre. Par la foi, nous croyons que Dieu continue d'agir dans sa création. Par la foi, nous croyons que nous pouvons intervenir dans ce monde et changer des choses, même si avec réalisme et lucidité, nous prenons conscience que nous ne pourrons pas tout changer, mais nous pourrons quand même apporter du bien, faire du bien. Les actions que notre association sociale et humanitaire Aide et Espoir mène ne va pas changer le monde, mais elle va faire du bien là où elle va agir. Et donc il faut continuer de le faire. Les actions que nous pouvons mener à titre personnel, dans notre quartier, dans nos lieux de vie, etc., ne vont pas changer le monde, mais elles vont apporter du bien. Et donc, continuons de les mener. Par la foi, nous croyons qu'il y a un véritable bonheur pour celui ou celle qui est prêt à vivre la vie telle qu'elle se présente à nous, avec ses joies et ses peines. Avec ses joies et ses peines. Et en recevant cette vie comme étant un don de Dieu, parce que la vie est un don. L'Ecclésiaste, qui croyait dans le Dieu tel qu'il se révèle dans l'Ancien Testament, avait pris conscience de ces vérités. Il espérait, il attendait quelque chose de meilleur. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes au bénéfice de la réalisation des promesses de l'Ancien Testament en la personne de Jésus-Christ, nous aussi nous avons une espérance. Avec quelque chose de plus que l'espérance qu'avait l'Ecclésiaste. On est de l'autre côté de la croix par rapport à l'Ecclésiaste. L'outil de la chronologie biblique, on en reparlera. Nous sommes dans l'attente de la gloire à venir. Et elle viendra, mais pour l'heure, maintenant là, sous le soleil. Nous vivons toujours dans un monde qui est soumis à une condition décevante et inconsistante, comme l'apôtre Paul d'ailleurs le mentionnait dans sa lettre aux Romains. Lisons dans ce chapitre 8. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir, la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté des enfants de Dieu, qu'ils connaîtront dans la gloire. Et nous continuons au verset 22. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas la seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Mes chers frères et sœurs, devant le caractère dérisoire et inconsistant de la condition humaine, la sagesse n'est pas une issue possible. Nous attendons encore la délivrance en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, mais comme dit le verset 24, ici, nous sommes sauvés en espérance. Mais un jour, au jour du retour de Jésus-Christ, le caractère dérisoire et inconsistant de la création prendra fin et la création sera libérée de la corruption et prendra part à la liberté des enfants de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes déçus par la vie, si la vie nous laisse perplexes, nous laisse avec tout son lot de frustrations, de déceptions, de questionnements qui ne trouvent pas de réponse, c'est le moment de venir à Jésus-Christ, de venir à lui par la foi et de vivre dans l'espérance de son glorieux retour, parce qu'il reviendra. J'ai bien aimé aussi les citations de tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, dans la première partie de ce culte. Il reviendra en gloire. Et alors, on ne sera plus sous le soleil, mais on sera en sa présence. Amen.